9h, 11h,
Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
C'est l'affaire criminelle la plus mystérieuse de ce début de siècle en France. L'affaire Xavier Dupont de Ligonnès effraie autant qu'elle fascine. Une mère et ses quatre enfants drogués puis abattus, un père suspect numéro 1 qui a disparu, sans avoir laissé suffisamment de traces pour qu'on sache ce qu'il est devenu. C'était il y a 10 ans pendant lesquels l'enquête a un peu avancé et beaucoup tâtonné. Elle a suivi quelques pistes, elle en a oublié d'autres. Et c'est sur elle et plus largement sur cette affaire hors norme que revient une série documentaire inédite diffusée ce soir sur BFM TV, Dupont de Ligonnès. Et s'il était en vie, point d'interrogation. Bonjour Céline Pigalle.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous, vous êtes la directrice de la rédaction de BFM TV. Avec vous Isabelle Quintard, bonjour.
Bonjour.
C'est vous qui avez réalisé cette série documentaire pour BFM avec Régis Desconclois et Simon Terrassier. Avant d'en parler plus en détail, Isabelle Quintard, en quelques mots, pour qui reviendrait de la planète Mars, les faits, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès?
C'est une tuerie familiale qui est assez inédite en France. C'est un père de famille qui est soupçonné d'avoir tué ses quatre enfants, sa femme, le 3 avril, dans la nuit du 3 avril 2011. Il disparaît le 15 avril, on retrouve sa voiture le 21 avril 2011 et on n'a plus de traces de lui depuis.
Céline Pigalle, cette série documentaire comporte 3 épisodes de 26 minutes, tous diffusés ce soir dans l'émission Ligne Rouge sur BFM. Une série sans voix off, sans commentaire. Les seules paroles qu'on entend sont celles de la douzaine de personnes que vous interrogez, des proches de Xavier Dupont de Ligonnès, des journalistes, un ancien enquêteur entre autres. Pourquoi avoir fait ce choix éditorial?
D'abord parce que BFM TV a toujours le souci d'innover, de chercher de nouvelles formes, de chercher de nouvelles écritures, de se positionner finalement, alors qu'il y a de plus en plus de gens qui essayent de raconter l'information de manière différente. Et puis aussi, parce qu'au fond, ce qu'on propose aux téléspectateurs, c'est de se faire sa propre idée. Et donc, il n'y a pas de commentaires, on vous donne tous les éléments d'information, et puis on vous laisse vous faire votre avis, votre opinion sur ce qui a pu se passer et sur la question essentielle. Xavier Dupont de Ligonnès, est-il vivant ou s'est-il suicidé?
Je me tourne vers vous Isabelle Quintard, c'est pas facile de s'interdire, plutôt qu'on vous interdise la voix off, parce que c'est parfois très utile, parfois c'est la solution de facilité, parfois c'est naturel, là vous n'y avez pas droit.
Oui, mais c'est vraiment un beau challenge parce que si vous voulez, vous laissez vraiment la parole brute et vous essayez de respecter ce qui a été dit et en même temps essayez de rythmer tout cela parce qu'évidemment, on n'est pas dans un récit linéaire, il faut essayer de raconter une histoire qui va intéresser les gens, ouais. Et en même temps on avait un angle assez précis à respecter avec la thèse du suicide et de la cavale.
Mais je vois par là qu'en montage, vous avez dû passer du temps.
Oui, il y a
un
vrai travail.
C'est pas un bout à bout facile.
Non, et le montard a fait vraiment un travail exceptionnel parce qu'il a rythmé en musique, avec des bruitages, du sound design. Vraiment, je tiens à insister sur le travail qu'il a fait. C'est vraiment, vraiment exceptionnel parce qu'on y a passé beaucoup de temps et j'espère que ça se sent parce que c'était très important justement sans voix off. C'est plus compliqué. C'est vraiment moins simple. Moi, j'ai toujours fait de la voix off. Ouais. J'ai vraiment l'habitude de ça. Et là, même pour moi, c'était une nouveauté, mais c'était vraiment passionnant à faire aussi.
Voilà, on pense à Groland qui se moquait aussi ouvertement. Et pour combien de temps? Voilà, c'est fini. Toutes ces voix-là, c'est terminé. 3 épisodes donc. Le premier épisode revient sur les assassinats en tant que tels. Les 2 suivants s'intéressent au sort de Xavier Dupont de Ligonnès. Et il y a 2 thèses. Soit il est en cavale, on va y revenir. Soit il s'est suicidé.
La conviction des policiers, c'est face à un tel massacre, il a dû se suicider.
La dépression, c'est un élément majeur dans cette affaire parce que c'est elle qui va finalement mettre le feu aux poudres et il ne fait pas de doute que Xavier Dupont de Ligonnès est dépressif et c'est ça qui va le ronger et qui va déclencher le passage à l'acte. Donc il est au bout du rouleau et il ne voit pas d'autre solution que la mort.
On vient d'entendre, je remets mon masque, on vient d'entendre Guy Huguenet qui est auteur d'un livre sur l'affaire et avant lui l'avocat de la mère et de la sœur de Xavier Dupont de Ligonnès, Isabelle Quintard. Qu'est-ce qui fait penser que ce père de famille ait pu se suicider? C'est quoi les éléments?
Mais on l'a entendu, c'est la situation financière, il est au bord du gouffre financier et puis il le dit souvent dans ses écrits qu'il se sent coincé, il cherche à obtenir de l'argent et à un moment donné il doit énormément d'argent à une maîtresse qui lui réclame, qui lui envoie les huissiers. Il risque d'être expulsé, il a plusieurs mois de loyer impayé, donc là on sent qu'il est dans une spirale et c'est la fin, c'est comment faire. Donc c'est vrai que ça accrédite cette thèse du suicide parce que comment s'en sortir si ce n'est avec cette solution, à ses yeux, cette solution terrible quoi, de tuer sa famille.
Alors thèse accréditée, thèse balayée, autre hypothèse que vous explorez dans le dernier épisode, la cavale, et là encore il y a des éléments troublants qui laissent à penser qu'il y a une cavale.
Oui, il y a par exemple ce bornage mystérieux dans une cité où on ne sait pas ce qu'il a fait. Est-ce qu'il a cherché à faire disparaître apparaît des objets compromettants. On sait qu'il n'a plus gardé les portables, les ordinateurs, tout cela a disparu. Les enquêteurs ne l'ont pas retrouvé. Est-ce qu'il a cherché à obtenir des faux papiers parce qu'il a eu besoin d'une nouvelle identité s'il a voulu s'enfuir? Donc là aussi, on se dit, une cavale, c'est possible. C'est-à-dire que les enquêteurs se sont dit, il n'a retiré que 30 euros. Oui, mais peut-être qu'il a pu bénéficier de complicité. C'est ce qu'on essaie de montrer dans l'épisode 3. C'est peut-être qu'il a eu des complices. Donc on pose la question, on essaie de montrer tous ces éléments-là. Et effectivement, il y a quand même énormément de zones d'ombre par rapport à cette thèse.
En parlant de bornage, vous revenez également sur quelques points de l'enquête. Vous parlez notamment de l'analyse de ce téléphone portable de Xavier Dupont de Ligonnès dans les jours qui ont précédé les assassinats.
Nous savons aussi que son téléphone a borné pas loin d'un espèce de lac qui est dans Nantes.
L'hypothèse la plus vraisemblable, c'est qu'il s'est débarrassé de matériel qu'il ne peut pas transporter, disons, au vu et au su de témoins éventuels.
C'est la voisine Gaëlle qui a vu Xavier de Ligonnès charger la voiture avec des gros sacs. Alors, elle ne savait pas trop ce qu'il y avait dedans, évidemment, mais il y en avait pas mal, apparemment.
Ce qui explique que les enquêteurs n'ont rien trouvé, hein, ni les ordinateurs, ni... donc il a tout débarrassé.
C'est sûr que si vous jetez du matériel informatique dans une rivière, dans la vase, il faut déjà le retrouver. Une unité centrale qui est récupérée par quelqu'un, il y a un disque dur à l'intérieur, ça peut amener des révélations.
Est-ce qu'il a jeté ordinateur et téléphone portable dans le lac? Nul ne le sait puisque personne n'a été vérifié.
Ce qui est dingue, c'est qu'on découvre que cette piste n'a pas été explorée. Est-ce qu'il y a d'autres pistes que les enquêteurs n'ont pas suivies ou pas explorées?
Non, ils ont essayé d'explorer un maximum de pistes, mais c'est vrai que ce bornage, c'est quand même un peu étonnant. Mais si vous voulez, ils m'ont expliqué qu'il n'y avait pas de témoins oculaires, donc ils ne sont pas allés vérifier davantage. Il y a peut-être d'autres pistes à explorer au niveau des mails qui ont été créés aussi. Ça, au niveau des enquêteurs, ils ont parfois aussi essayé d'exploiter certains signalements, mais ça s'est arrêté. Donc voilà, est-ce que peut-être un nouveau signalement pourrait permettre de relancer l'enquête? Ça, c'est ce qu'on attend.
Ils en sont où, l'enquête de police continue?
Elle est en attente, c'est-à-dire que ça n'est pas arrêté, évidemment, mais ils sont en attente d'un signalement. Ils sont en attente peut-être d'un nouveau témoin, de personnes qui pourraient se mettre à parler, parce qu'on se dit qu'il y a peut-être des gens qui savent des choses dans cette affaire et qui ne disent pas encore tout ce qu'ils savent.
Xavier Dupont de Ligonnès est-il encore en vie? Et s'il était encore en vie, c'est le titre du documentaire qui passe ce soir en trois parties sur BFM TV. On en parle avec Isabelle Quintard, c'est la co-réalisatrice de ce doc, et Céline Pigalle, directrice de la rédaction de BFM TV. À tout de suite.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Céline Pigalle, c'est la directrice de la rédaction de BFM TV, Isabelle Quintard. Elle signe une série de documentaires, elle co-signe Dupont de Ligonnès et S'il était en vie, point d'interrogation, sont trois épisodes de 26 minutes qui passent ce soir sur BFM TV. Isabelle Quintard, il y a peu d'images de cette affaire, quelques photos tout au plus et quelques caméras de surveillance. Comment vous avez fait pour la mettre en image?
Alors il a fallu reconstituer, donc imaginer des scènes, et utiliser même des décors comme une maison. On a pris une agence de location de décors de cinéma et puis on est allé tourner et j'ai imaginé à chaque fois des scènes qui pourraient permettre d'illustrer chaque moment. Par exemple, dans le premier épisode, la découverte des corps dans le jardin et surtout avec des
Alors,
accessoires.
J'avoue, me suis fait avoir, j'ai cru que c'était vrai, on dirait une VHS, on voit même la bande qui merdouille un peu, pardon pour le terme, et j'ai cru que vous aviez récupéré les bandes de la police.
Non, l'idée c'était de crédibiliser au maximum l'image, ouais, tout en restant honnête et en indiquant que c'était une reconstitution. Mais l'idée c'était ça, c'était à chaque fois, on amène des accessoires, on imagine des moyens un petit peu pour raconter l'histoire telle qu'elle a été et pour mettre vraiment le public dans les yeux des enquêteurs. Voilà, ils s'imaginent être les enquêteurs.
Et puis de nombreux témoignages, évidemment. Cette série documentaire a été réalisée et produite par la rédaction de BFM. C'est vous, Isabelle Quintard, qui l'avez réalisée avec Régis Desconclois et Simon Terrassier. Céline Pigalle, pourquoi ne pas avoir fait, comme ça se fait souvent dans ces cas-là, sous-traiter cette série à une société de production, comme le font la quasi-totalité des chaînes?
Bon, tout simplement parce qu'on avait envie de s'en occuper nous-mêmes, parce qu'on avait envie d'aborder...
Je pose la question, pourquoi aviez-vous envie de vous en occuper vous-même?
Parce qu'on avait envie d'aborder ces territoires-là. Finalement, BFM TV a commencé d'exister et a marqué les esprits avec la fameuse priorité au direct. Mmh. Ce pourquoi on est crédité, c'est l'information en temps réel, au plus près du terrain. Et pourquoi pas explorer d'autres champs et montrer que cette marque d'information, elle peut explorer toutes les promesses éditoriales et notamment les formats longs, notamment les enquêtes. Et puis vous savez, ça arrive de temps à autre qu'on nous reproche un peu d'aller trop vite, de passer trop vite aussi sur les événements. Et bien à travers ces formats-là, à travers les enquêtes, à travers les séries, on peut revenir sur des informations, on peut revenir en profondeur. Et du coup, on avait envie de le faire nous-mêmes, on n'avait pas envie de demander à d'autres.
Est-ce que toute la rédac est mise à contribution? J'explique, quand c'est une société extérieure, sont les enquêteurs de l'extérieur. Tandis que là, vous avez un service police-justice. Est-ce que l'intérieur de la rédaction de BFM TV a aidé à ce documentaire?
Alors, il y a un service spécifiquement dédié au long format, aux enquêtes 26, 52, aux séries, mais qui évidemment travaille main dans la main avec le reste de la rédaction. Ça peut être en effet sur ce format-là le service police-justice, mais ça peut être aussi tous les reporters qui ont eu à travailler sur ces enquêtes. Ça peut être le service politique quand c'est un documentaire politique. Donc évidemment, toute la ressource de la rédaction est utilisée.
Isabelle Quintard, qu'est-ce qu'on apprend dans votre série documentaire de plus que dans les autres films réalisés sur le sujet ou que dans les livres, dans les enquêtes écrites sur cette affaire? Notamment, évidemment, je pense à celle de Society l'été dernier, les deux numéros spéciaux qui avaient été en rupture de stock, ce qui est assez rare pour être signalé dans la presse écrite.
Alors évidemment, il y a une base commune puisqu'on a à peu près la même source d'information qui est le dossier et puis l'accès aux témoins. Mais il y a des choses vraiment inédites, comme par exemple, on raconte un dîner dans le premier épisode, un dîner trois semaines avant les meurtres, où Xavier Dupont-Ligonnès cherche à se renseigner sur la façon de se débarrasser des traces de sang. Et il demande ça à son gendre chasseur. Et il va aussi demander comment découper les corps. Vous voyez, donc c'est assez effarant. Et ça, c'est des choses qui ne sont pas sorties avant. Il y a des témoignages, l'audition d'un homme qui a entendu les coups de feu, l'exécution méthodique. Voilà, il y a un certain nombre de choses à chaque fois inédites. Et donc j'invite vraiment les gens qui vont regarder ce soir, à être attentif parce qu'il y a vraiment des choses qui ne sont pas sorties ailleurs.
Céline Pigalle, il y a 5 mois, la première série documentaire de BFM était consacrée à l'affaire Jonathan Daval. Elle avait très bien marché, un peu plus d'1 million de téléspectateurs, 4,1% de part d'audience en moyenne. La série avait été diffusée 2 fois en 2 soirées consécutives. Vous avez un objectif? Oui, vous avez un objectif, c'est lequel pour cette série sur Xavier Dupont de Ligonnès?
Faire toujours mieux.
Toujours mieux, donc plus qu'1 million.
On va espérer.
Quelles autres séries documentaires sont en préparation? Parce que j'imagine que vous n'allez pas vous arrêter là.
Alors, il y a une chose qui est connue déjà, c'est que nous travaillons sur la traque de Salah Abdeslam, qui est l'un des auteurs rescapés de la tuerie du Bataclan, des attentats de Paris le 13 novembre 2015. Et donc, ça, c'est un très gros projet. Il y aura le procès de ces attentats aura lieu à l'automne, et donc on a voulu revenir aussi sur ces événements. Puis il y a une matière qui sans doute se prêterait bien l'année prochaine, en année présidentielle, la montée des séries, c'est la matière politique, évidemment. Donc ça fait partie des choses sur lesquelles on réfléchit.
Le feuilleton au jour le jour.
Par exemple.
L'affaire Xavier Dupont de Ligonnès inspire également vos concurrents. LCI propose un documentaire également ce soir. Qu'est-ce que vous vous dites? Vous dites on a mis le doigt sur la bonne chose ou mince, pourquoi ils font comme nous?
Je me dis que comme d'habitude, nous sommes devant, c'est ça qui compte.
Ah bah tiens. Justement, un mot des audiences. En un an, entre mars 2020 et mars 2021, BFM TV est toujours devant, mais a perdu 1,3 point de part d'audience. Elle est passée de 4,1 à 2,8% d'audience moyenne. Est-ce que cela vous inquiète?
Alors, absolument pas. En réalité, là, vous prenez un mois donné. Et c'est vrai qu'il y a un an, on était au début de la crise du Covid. On était sur un moment parfaitement exceptionnel d'information. Mais en réalité, les chiffres de BFM TV sur le début de cette année 2021, c'est 2,9% de part de marché, c'est-à-dire strictement la même chose que l'année dernière, qui est notre année record.
Voilà.
Sur 15 ans d'existence de BFM TV, on a fait 2,9% de part de marché l'année dernière. C'était le maximum de ce qu'on a pu atteindre et on est toujours en ligne avec ces chiffres. Donc non, je n'ai pas de raison d'être inquiète.
Dans le même temps, CNews a progressé d'un demi-point et l'écart entre les deux chaînes s'est réduit le mois dernier. Il n'était que de 0,9 points.
Je n'ai pas l'habitude. Quand on court, vous savez, ce n'est pas une bonne chose de regarder derrière soi. C'est une bonne chose de regarder devant soi. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être au niveau des grands piliers de l'information. Je vais vous raconter une anecdote. Hier, quand on apprend que la petite Mia a été retrouvée, ouais, le procureur annonce, dans la demi-heure qui suit, un point presse. À ce moment-là, on est sollicité et par TF1 et par France 2 pour nous dire, vous êtes sur place, est-ce qu'on pourrait racheter votre signal? Est-ce qu'on pourrait racheter vos images? Voilà, quand on est là, quand on est les seuls à être sur place au bon moment, dans l'urgence, quand on quadrille le terrain, le territoire, et que ça nous permet de faire remonter et les bonnes images et les bonnes informations. Alors, on est dans notre rôle de leader des chaînes d'information.
CNews, dont les audiences ont progressé en un an, s'est clairement positionné comme une chaîne conservatrice, j'apprends rien. BFM TV a mis à l'antenne un peu plus d'éditorialistes conservateurs, c'est pas moi qui le dis, c'est ce que disait Marc-Olivier Fogiel, le patron de BFM TV, il y a deux semaines dans le JDD. Est-ce que les chaînes d'info tendent trop vers la droite ?
Moi, je crois que ce qui est très important pour nous, BFM TV, c'est de refléter le paysage politique, de parler au plus grand nombre, et donc d'avoir en réalité des éditorialistes de toutes les tendances politiques. Ce qui est vraiment dans nos têtes en permanence, c'est la recherche de panels d'éditorialistes qui parlent à chacun, qui permettent à chacun de se positionner, qui permettent à chacun de se faire son opinion, et surtout pas d'être réduit à un seul espace.
J'ai bien compris. Merci beaucoup Céline Pigalle, merci Isabelle Quintard, Dupont de Ligonnès et S'il était en vie, c'est le titre de cette série. Personnellement, c'est quoi votre réponse? C'est quoi votre intime conviction?
C'est qu'il est vivant.
Céline?
La même chose, il n'a pas fait tout ça pour se suicider sans même qu'on le sache par ailleurs.
Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous toutes les deux.